Et pour terminer, bon, j'ai problématisé, je n'ai pas donné trop de solutions, de réponses, mais je voudrais quand même donner une réponse, un modèle possible, qui est le modèle de la traduction. Le modèle de la traduction. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on fait quand on traduit? Il y en a parmi vous qui ont fait cette expérience de traduire. On sait que, comme disait l'italien, traditore, traditore. Okay. Traduire, c'est trahir. C'est la malédiction de Babel. Depuis Babel, bon, on est condamné à ne pas se comprendre. Okay. Et il y a des penseurs qui disent, parce qu'on pense à l'intérieur d'une langue, à l'intérieur d'une certaine manière de penser, d'un certain paradigme, okay, on ne peut pas sortir de là. Okay. Donc c'est vraiment impossible de comprendre une autre. Okay. On n'a pas le même mot, on n'a pas la même façon de... Même si on utilise le même mot, on ne met pas la même réalité derrière ce même mot, etc. etc. Okay. Il y a des penseurs qui disent ça. On est condamné au malentendu. Et c'est vrai, on pense toujours à l'intérieur de sa langue maternelle, même si c'est on a une langue acquise, une langue qu'on a appris à l'école ou ailleurs, okay, c'est toujours à partir d'une langue maternelle. Quoi. Il y a des catégories, il y a des représentations de base. Voilà. Et bien sûr, on peut trouver des équivalents, mais des équivalents ne sont pas pareils. Okay. Ils ne sont jamais pareils. Okay. C'est comme, excusez-moi, cette analogie, mais parfois j'ai envie de manger des plats de chez nous. Okay. Mais on n'a pas les mêmes ingrédients. C'est comme, je me souviens, quelqu'un qui voulait faire des frites. Bien sûr, on a des pommes de terre chez nous, à Mani, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes pommes de terre. Et comme vous savez, ce n'est pas toutes les pommes de terre qu'on peut utiliser pour faire des frites. Il y a des pommes de terre pour des frites, il y a des pommes de terre pour le pot-au-feu ou d'autres choses. Vous voyez? Okay. Donc, je veux faire, je ne sais pas, Sinigang. Mais je n'ai pas les ingrédients. Mais il y a des équivalents. On peut trouver des substituts. Okay. On peut. Mais vous savez, c'est jamais pareil. Okay. Ce sont des équivalents, mais c'est jamais pareil. Okay. C'est pas la même chose. C'est pas comme faisait maman. Okay. Donc, la traduction, c'est un peu comme ça. Bien sûr, on peut trouver des équivalents. Mais c'est jamais pareil. Et ça nous laisse sur notre faim. Et c'est normal. C'est normal. Okay. Mais c'est pour ça, ce qui est important dans la traduction, c'est pas de trouver une traduction parfaite où la perfection, ça sera vraiment, il n'y a aucune différence entre la langue source et la langue but, le goal.
Target.
Oui, la langue d'arrivée, voilà. Okay. La langue d'origine et la langue d'arrivée. Okay. Il n'y a pas de différence. Or, justement, l'expérience de la traduction, l'expérience de l'acte de traduire, nous montre, nous fait expérimenter, il y aura toujours cette différence. Okay. Mais, on pourrait être tenté de dire tant pis, mais non, tant mieux. C'est pas tant pis, c'est tant mieux. Parce que justement, cet acte de traduire, on a une certaine équivalence, mais en même temps, on reconnaît l'altérité irréductible. Oui. On amène un texte à sa propre langue, on amène soi-même dans le texte de notre langue. Okay. Donc il y a un certain transfert, il y a un certain équivalent. Mais on reconnaît la différence. La différence n'est pas mauvaise. D'abord, elle est irréductible, mais elle n'est pas mauvaise, pas forcément mauvaise. Vous voyez? D'apprécier la différence, d'apprécier même le désaccord, justement. Ce n'est pas parfait, mais tant mieux, ce n'est pas parfait. Ça élargit nos horizons, ça fait nous découvrir autre chose. Vous voyez? Et il me semble, l'expérience qui traduit justement ce modèle de traduction, c'est l'expérience de l'hospitalité. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe qu'on se laisse recevoir par quelqu'un? Car l'hospitalité, ça va dans les deux sens, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit quelqu'un chez soi? D'abord, on reçoit quelqu'un chez soi. Et ce n'est pas facile. Ça exige une certaine ouverture, bien sûr. Mais ça exige aussi que je dépasse peut-être une réaction initiale, normale d'ailleurs, de voir l'autre, justement, pas seulement comme étranger, mais même comme ennemi. Comme quelqu'un qui viole mon espace, car nous avons un espace privé. Ce que j'expérimente comme moi-même, ce n'est pas simplement délimité par mon corps, délimité par ma peau. Il y a un espace, même à l'extérieur de ma peau, qui est moi-même. Et quand tu t'approches trop près, c'est comme si tu me touches. Okay? Et je me sens violé. Okay? Je me sens menacé. Okay? Et cette distance, justement, qui définit l'espace privé, c'est varié. Hein? Ça dépend de culture de culture. Il y a certaines cultures que mon espace privé, c'est vraiment très étroit. Okay? Donc, tu peux être très proche et ça ne me fait rien. Dans d'autres cultures, l'espace privé est plus large. Okay. Donc, tu peux être, je ne sais pas, un demi-mètre loin de moi, mais je me sens. Et ça se voit dans le langage du corps. Je me crispe. C'est trop près. Vous voyez? Okay. Donc, recevoir chez soi. Okay. Donc, dans l'intimité. Et même dans son chez soi, je me souviens, j'ai un ami qui m'a raconté, elle a fait des études en Belgique, et elle était devenue amie de quelqu'un, et après quelques mois, cette amie l'a invitée chez elle. Ok? Et puis donc, ils ont pris le repas, et elle voulait aller au petit coin à un certain moment. Et donc, elle est allée, parce qu'elle savait qu'il y avait une toilette à l'intérieur de la chambre. Donc, c'est normal. Donc, elle est vers la chambre. Et l'ami qu'elle recevait, non! Panique! Panique! Okay. Parce que c'est... oui, tu es mon ami, je t'invite chez moi, mais on n'est pas assez amis pour que tu rentres dans ma chambre. Vous voyez? C'est vraiment privé. Voilà. Donc, parce que chez nous, bon, aux Philippines, bon, c'est pas très... c'est frontière, justement, de l'espace intime, c'est plus fluide, quoi. Ne serait-ce que parce qu'on vit à l'étroit, parfois il n'y a que deux pièces, etc. Donc, ça va et vient, il y a une va-et-vient comme ça. Le sens de l'espace privé est moins défini. Okay. Mais vous voyez, cela veut dire que ça dépend de culture, d'accepter cela, okay. de voir cela. Okay. Donc, recevoir chez soi, okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Recevoir chez soi, c'est bien sûr, il y a des frontières, il y a des limitations. Mais surtout, okay, recevoir chez soi, c'est reconnaître que l'autre n'est pas moi. La différence est irréductible. On n'est pas pareil. Okay. Et peut-être, il vaut mieux qu'on ne soit pas pareil. Okay. Parce que si on est tous pareils, c'est quand même ennuyant. Okay, c'est... Okay. Mais justement, vous voyez l'ambiguïté. Je reviens à mon premier point sur l'ambiguïté. C'est à la fois exciting, ça rajeunit. On commence toujours, okay? Parce que quand on rencontre un autre, on recommence, il faut recommencer. Okay? Il n'y a pas de format, il n'y a pas de template, okay? Il faut recommencer, d'une part. Okay? Mais d'autre part, okay, c'est douloureux parfois. Okay? C'est exciting, mais c'est douloureux. C'est une surprise. Je connais des gens qui n'aiment pas de surprises. Okay. Parce que ça met en question justement tout. Quoi. Okay. On n'est plus le centre, on ne domine plus. Okay. Mais c'est ça qui arrive dans l'acte de traduire. Okay. C'est pour ça que la traduction n'est jamais facile. Okay. Parce qu'il faut trouver des équivalents. Okay. Mais en même temps, justement, en trouvant des équivalents, reconnaître l'altérité irréductible de l'autre, du texte par exemple que je suis en train de traduire, de reconnaître que ma langue, la langue d'arrivée, peut-être n'a pas toutes les ressources pour recevoir justement ce que je voudrais recevoir. Okay? Que peut-être il faut inventer ces ressources, parce que c'est ça aussi l'acte de traduire. Ce n'est pas simplement découvrir des ressources de la langue d'arrivée, mais parfois d'inventer. Inventer au sens de trouver aussi. Mais ce qui est important, c'est de traduire comme modèle, l'hospitalité comme modèle de la traduction, c'est justement cette reconnaissance de l'altérité irréductible. C'est-à-dire que on peut recevoir l'autre tout en restant en désaccord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord dans notre manière de voir, on n'est pas dans notre manière de faire, etc., etc. Mais cela n'empêche justement une bonne entente. Cela n'empêche pas justement que je te reçois chez moi. Je te reçois dans ton altérité, dans ton étrangeté. Et peut-être, quand tu te retrouves chez moi, tu te retrouves dans un espace un peu bizarre, étrange. Mais ça ne fait rien. C'est étrange et c'est bizarre, mais tu es avec moi. Et il y a un lien entre nous qui fait que je peux vivre avec cette bizarrerie, cette étrangeté, l'hospitalité. Donc, il me semble que quand il s'agit de... Parce que cette question de culture, de clashs de civilisation, de accueil et tout ça, vous voyez, il me semble que c'est important de voir ça. C'est plus une question de... Ce n'est pas une question de tolérance. C'est même plus fondamental que la tolérance. C'est une question d'accueil. Parce que l'accueil va plus loin que la tolérance. Je peux être tolérant, mais justement je suis tolérant parce que je ne m'engage pas. Je reste à distance. Tandis que l'accueil, dans l'hospitalité, je m'engage. Et il me semble, dans cette expérience, justement, de cette découverte des cultures, qui veut dire des personnes d'autres cultures, N'oublions jamais, ce n'est pas une question de découvrir simplement des cultures comme ça, mais c'est des personnes, des êtres humains, des personnes que j'aime, qui m'aiment, mais qui sont différents. Alors, comment les accueillir? Et ça va toujours dans les deux sens. Ça va toujours dans les deux sens.
Alors, avez-vous des questions? Alors, pendant que vous vous installez, vous pouvez déjà réfléchir aux questions ou aux réactions que vous aimeriez partager.
J'ai juste une définition du livre par Brigitte de Suède. Elle dit que c'est un jardin dans sa poche.
Très joli.
Non, un livre, c'est un jardin dans sa poche. J'avais déjà lu.
Comment développer l'hospitalité?
Parce qu'il y a la dimension personnelle, mais il y a aussi la dimension d'un groupe.
Il me semble, ce que je veux dire, c'est pas complet, hein, c'est pas compréhensible. Je dirais pas tout, mais quelques éléments. Il y a, il me semble, un travail de compréhension à faire pour développer l'hospitalité. Et une compréhension dans les deux sens. Il y a la compréhension de l'autre, une compréhension de soi. Compréhension qui comprend aussi l'acceptation de l'autre et de soi-même. Donc, et les deux vont ensemble. C'est pas l'un après l'autre, mais les deux vont ensemble. D'abord, compréhension de l'autre. Il faut connaître d'abord l'autre. Il faut connaître l'autre dans son être concret, dans sa concrétude. Je ne sais pas, peut-être c'est une concrétude, on pourrait dire. Dans sa concrétude, pas simplement comme exemple, illustration ou instance d'une idée générale, mais dans sa particularité, dans sa singularité même. Et qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un travail. Normalement, quand on rencontre autrui, on a des idées préconçues, et ça nous aide à caser, justement, autrui. On gagne du temps, okay? Mais c'est vrai, on gagne du temps. Ce qu'on gagne du temps, on perd dans la réalité, c'est réducteur. Okay? Donc c'est à la fois c'est normal, mais il y a des limites, voyez. Donc comprendre l'autre dans sa concrétude, et quand il s'agit de, justement des cultures, dans des situations où on côtoie justement des gens d'autres cultures, il faut connaître, par exemple, d'où vient-il. Et justement, le noyau de leur culture, il ne s'agit pas simplement d'avoir des idées, des caricatures même, toutes faites, dans lesquelles on aplatit tout. C'est comme, par exemple, je connais des Européens, quand ils vont en Asie, bon, tous les Asiatiques ont des yeux comme ça. Voilà. On a des Coréens, Japonais, Chinois, on a tous des yeux comme ça. Bridé. Comme si pour nous, par exemple, les Philippins, quand on va en Europe, ils sont tous des blancs. Vous voyez, que ce soit des Français, des Allemands, des Suèdes, des Estoniens, tout ça, bon, ils sont tous des blancs. Vous voyez, c'est normal, ça facilite justement, on met des choses dans les casiers, mais on perd le réel. Vous voyez? Donc, quand il s'agit de connaître notre culture dans leur concrétude, dans le noyau, donc pas seulement dans des institutions traditionnelles, dans le mœurs pratiquées, généralisées, mais dans leur littérature, leur art, les représentations fondamentales, les représentations de base, leurs mythes, voyez, les mythes qui régissent leur vie, une façon de voir le monde, voyez, la géographie, c'était concret, leur cuisine, voyez. C'est pour ça que c'est important que Armel a commencé par les jardins. Oui, là, c'est un point de départ très, très concret. Oui. Donc, la compréhension de l'autre, connaissance de l'autre, mais aussi connaissance de soi. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Parce que, pourquoi est-ce que je sens que l'autre me menace? Pourquoi je trouve ça bizarre?
Ou agaçant.
Oh, agaçant, oui. Vous voyez? Il faut aussi se connaître. Okay. Parfois, on commence justement sur un registre un peu normatif. Quoi. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Or, il s'agit d'abord de discerner ce qui est. Okay. De rester, de commencer sur le mode indicatif, quoi. Okay. Ce qui est. Après, bon, on peut aller aussi dans le normatif, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, etc. Question de valeur, tout. Mais d'abord, ce qui est. Ce qui est en face de moi. Ce qui est en moi. Okay. Il me semble qu'il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas d'hospitalité qui ne soit pas dans la vérité. On ne peut pas recevoir quelqu'un chez soi, on ne peut pas se laisser recevoir par un autre chez lui sans être dans la vérité. Okay. Sinon, c'est tout faussé, quoi. Vous voyez?
Il y a aussi peut-être une piste, ne pas comparer. Parce que l'intelligence, naturellement, elle va du connu à l'inconnu. Donc quand on arrive devant une différence ou dans un pays étranger, on aime bien « Ah, ça, c'est comme en France. Ah, ça joue à peu près. » En fait, quand on compare, on réduit la différence de l'autre. Donc, comme c'est spontané, bah, il faut laisser passer cette étape. Mais après, c'est très libérant de se dire, en fait, ma première mission, c'est d'écouter, d'accueillir la différence. Bah, c'est pas comme chez moi, mais faire comme les enfants, en fait. Ben, tout est différent, la façon de marcher, la façon de manger, la façon d'expliquer, et de ne pas toujours dire oh, moi, les Français, on fait comme ça, à Paris, on fait comme ça. Laisser de côté cette spontanéité de comparaison pour vraiment être, souligne Eddie, être dans l'hospitalité. Donc on accueille, c'est différent, ben, voilà. Mais c'est un exercice... de souplesse.
Et il me semble aussi l'importance de savoir perdre son temps. L'hospitalité exige une certaine perte de temps. Parce que l'hospitalité exige du temps gratuit. Il y a une certaine gratuité. Parce que dès qu'on est déjà intéressé, je reçois quelqu'un pour le convertir, pour, pêcher une vocation à Notre-Dame de vie, ou, etc. Quand c'est intéressé, c'est dommage. Okay. Parce que le temps gratuit, ça, en fait, c'est reconnaître justement la. Il y a quelque chose dans autrui, dans l'autre, qui est, tout simplement. C'est l'émerveillement, c'est l'étonnement devant l'être tout simple, quoi. C'est beau, c'est bon, parce qu'il est. Il me semble que c'est pas simplement de la haute métaphysique, mais c'est quelque chose de très banal, en même temps, qui tisse la profondeur de notre vie ordinaire, quoi. De simplement de reconnaître l'être de l'autre, okay, et dans la gratuité, je crois que c'est important pour développer, pour grandir justement dans l'hospitalité. Tessie?
On a parlé de rencontres de culture. Alors, pour l'inculturation, c'est pas tout à fait pareil, non?
Non, c'est pas tout à fait pareil.
De critères différents.
Oui. Ah, oui, pardon. Nous avons parlé de, d'accueillir justement l'autre, les autres cultures, mais l'inculturation, nous n'avons pas parlé de l'inculturation. C'est pas pareil? Voilà la question. Oui, il me semble que c'est pas pareil. Je fais exprès, je n'ai pas évoqué du tout la question de, de l'inculturation. Parce que c'est un autre sujet, c'est énorme, c'est très important, mais c'est énorme. Donc, on a décidé de ne pas le traiter pour le moment. Peut-être que ce sera un autre week-end, une autre année, la question de l'inculturation, parce que c'est tellement important maintenant. Pardon? C'est déjà simplement définir l'inculturation, c'est toute une question. Mais comment, parce que c'est du point de vue de la, pour être spécifique, hein, de la foi chrétienne. Okay? La foi chrétienne a été répandue sous une forme, sous des formes culturelles. Et ça, c'est depuis le début. Hein, d'abord sous une forme hébraïque. Mais il a fallu aussi adresser la bonne nouvelle aux gentils, aux païens, de langue grecque, sous une administration romaine. Après cette inculturation dans des catégories grecques de premier siècle, il a fallu le traduire de nouveau, donc je fais le lien avec la traduction, avec le peuple germanique. Ça, c'est un autre, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, comment justement incarner et proclamer la bonne nouvelle chrétienne aussi au peuple germanique, et puis à d'autres peuples, aux Arabes, et puis après, déjà dans le temps moderne, à partir du 16e siècle, aux Amériques, et puis en Asie, vous voyez. Est-ce qu'il y a des correspondances, justement, de la foi chrétienne, qui était... la foi est plus que la culture, mais n'empêche que ça fait partie de l'incarnation, ça a été incarné, la bonne nouvelle a été incarnée dans un contexte d'abord juif, hébraïque, et ça fait partie de sa logique même, parce que le Messie, c'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à sa postérité. Là, on ne peut pas contourné, il est fils d'Abraham, Jésus-Christ, mais dans les circonstances, parce qu'il est né sous Auguste César, il est mort sous Ponce Pilate, il y a vraiment un ancrage historique, géographique, il est mort à Jérusalem, non pas à Pékin, non pas à Manille, il est juif, non pas aztèque ou polynésien, vous voyez, ça fait partie de la logique de l'incarnation. Et puis quand on voit les conséquences, l'Eucharistie, il faut le faire avec du pain fait avec du blé, donc avec du riz, du vin fait avec du jus de raisin, donc pas avec l'alcool de riz ou l'alcool de pomme de terre. Ça fait partie de l'incarnation. En même temps, on n'est pas obligé de s'habiller comme le Christ dans son temps. Les hommes ne sont pas obligés, pour être chrétiens, de subir la circoncision. Ça, c'est déjà un débat aussi ancien que Pierre et Paul, etc., etc. Donc, de savoir discerner ce qui appartient à la bonne nouvelle, et ce qui est accrétion culturelle. C'est pas toujours facile. Mais c'est tout le problème de l'inculturation. Vous voyez? C'est la relation, le rapport foi et culture. Okay. Oui. Nous avons parlé de culture de façon plus large. Un jour peut-être, il faut cerner justement la question plus précise, foi et culture.
Quelle différence entre protestants et évangélistes ? C'est quoi la différence ?
Quelle différence entre protestants et évangélistes ? Je ne me sens pas compétent de répondre à cette question.
C'est pas le sujet, pardon.
Oh, voilà.
Excusez-moi.
Ça fait rien. On échange. Isomi.
Jusqu'au maintenant, j'ai entendu parler beaucoup de la tolérance entre les religions.
Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup entendu parler de la tolérance entre religions.
Mais là, maintenant, j'ai compris qu'il faut aussi accueillir les religions pour qu'on soit beaucoup plus fraternel.
Maintenant, j'ai entendu qu'il faut maintenant accueillir pour qu'on soit plus fraternel. Oui. On n'a pas parlé en fait de religion en tant que telle. C'est plus large. Quand on parle de la tolérance, la notion de tolérance, il y a plusieurs sortes de tolérance. Il y a une tolérance parce que je suis en désaccord avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es même. Je suis en désaccord, mais je ne peux pas t'empêcher. Donc, tolérance. Je ne peux pas t'empêcher parce que je n'ai pas le pouvoir. Voilà. Donc, c'est un niveau de tolérance. Okay. Il y a un deuxième niveau. Je suis en désaccord, je désapprouve ta manière de faire, de penser, etc. Mais j'essaie quand même de le comprendre. C'est déjà une autre façon de tolérer. Il y a une volonté de comprendre aussi. Je n'accepte pas, je suis en désaccord, je désapprouve, mais j'essaie de comprendre. Et puis, il y a un autre niveau de tolérance où je dis je désapprouve, mais j'essaie de voir ce qu'il peut avoir en commun entre vous, entre toi et moi. Donc je tolère. Je désapprouve toujours. Okay. Et puis il y a un niveau de tolérance qui dit je n'approuve pas ou je désapprouve. Ce n'est pas une question d'approbation ou désapprobation. Je ne me situe pas à ce niveau-là. Okay. Je ne me situe pas simplement au niveau de « j'essaie de comprendre », mais justement, j'essaie de comprendre notre rapport commun avec la vérité, une vérité qui m'échappe, qui nous échappe. Donc, je ne me place pas en position de jugement supérieur, mais un chercheur comme toi, on essaie de chercher la vérité. Donc il y a une tolérance qui ne met pas l'autre par rapport à moi, mais par rapport à une vérité toujours plus grande. Ça, c'est un autre niveau de tolérance. Donc il y a des niveaux. Et il me semble que ce quatrième niveau, c'est plus apparenté à cette notion d'accueil. Que je te reçois chez moi parce que nous sommes tous les deux en recherche de la vérité. Okay. Ce n'est pas que toutes les vérités se valent. Okay. Il y a une uniformité plate, pour ainsi dire. Non. Okay. Mais c'est une reconnaissance que voilà la vérité que je vis, la vérité que je vois, mais peut-être je ne vois pas tout. Que je ne possède pas la vérité, que j'espère être dans la vérité. En tout cas, je continue à le chercher. Et peut-être ce que tu dis même si je ne vois pas tout de suite sa vérité, okay, je peux l'accepter comme une aide justement à ma propre recherche de vérité. Et peut-être je peux partager avec toi, okay, ce que je vois de la vérité pour que ça t'aide à ta propre recherche. Mais ce qui prime maintenant dans cet accueil, c'est cette recherche commune de la vérité. Okay. Donc, dans l'acceptation mutuelle, en fait, il y a quelque chose de plus grand. C'est cette orientation vers cet accueil implicite d'une vérité ou d'un bien plus grand que nous.
Donc, au même niveau, vous avez des niveaux différents pour l'accueil. Parce que vous avez parlé de la tolérance avec quatre niveaux. Donc, l'accueil, vous avez aussi des niveaux différents.
Non, c'est plus à partir du quatrième niveau, parce que l'accueil commence quand je ne me mets pas dans une position supérieure où j'occupe un siège de jugement, j'approuve, je désapprouve, mais je reconnais que nous sommes sur le même plan d'une recherche commune. Donc ça commence par le quatrième niveau de tolérance. Marion?
Tout au long, le problème des réfugiés et de l'immigration et de l'accueil me venait, mais c'est complètement, c'est vraiment de très pratique à un niveau universel, national au moins.
Marie, on pose la question sur le problème de migration, de réfugiés et l'accueil. Voilà. C'est vrai. C'est un. Si je me permets de dire mon avis sur cette question vraiment très complexe, c'est vraiment très complexe. Et il me semble qu'il faut concevoir l'accueil non pas en s'arrêtant simplement, bon, on accueille, mais qu'est-ce qu'on fait après? Vous voyez? Et il me semble toute la question de l'intégration, ça fait partie de l'accueil. Accueillir l'étranger, ce n'est pas simplement, bon, tu rentres chez moi et voilà, basta. Non, il y a tout un accompagnement. Okay? Et c'est là où il faut être aussi, il me semble, réaliste. Okay? Il faut connaître ses ressources. Il faut connaître ses ressources. Peut-être il y a des pays qui n'ont pas ces ressources-là. Okay? On parlait tout à l'heure de l'espace. Il y a des pays où il y a de l'espace. Je parle à une Canadienne, n'est-ce pas? Où il y a de l'espace et il y a des pays où il n'y a pas assez d'espace. Okay? Parce que quand on met trop de gens dans un espace délimité, ça crée des frictions, inévitablement.
Okay?
Quand on met trop de gens dans un espace délimité, okay, ça crée des frictions. C'est inévitable. Hein. Donc, il me semble, l'accueil dont on peut essayer de promouvoir, c'est un accueil responsable. Ce n'est pas un accueil n'importe comment. Okay. Et c'est vrai, c'est ambigu, c'est complexe, parce que ce qui est en question ici, c'est pas simplement des chiffres, c'est des personnes humaines, c'est des hommes, des femmes, des enfants. Donc c'est pas facile. Hein? Quand on a, comment dirais-je, un décideur, ça c'est dit en français. Ouais. Quand on est décideur, la situation n'est pas pareille comme quand on est simplement spectateur. Ouais. Quand on a la responsabilité de la décision, c'est autre chose.
Il est temps de conclure parce que c'est presque l'heure.
Ah oui, oui.
Il reste 3 minutes.
Oui, oui. Et nous avons pensé conclure ce grand texte justement des cultures qui apportent leur contribution, qui apportent leur richesse au pied de la lumière des nations. Donc, on est un peu décalé au point de vue temps liturgique. C'est un texte pour l'Avent. C'est le texte qu'on lit pour la grande solennité de l'Épiphanie. Voilà. Mais quand même, je crois que ça nous donne une lumière sur, sur ce que nous avons essayé de réfléchir ce matin.
Avant de le lire, j'ai juste un petit élément qui peut aussi alimenter votre réflexion sur l'inculturation. C'est le pape qui dit qu'aucune culture n'est pure. Seul l'évangile est pur. Et lui, il définit l'inculturation comme purification des cultures par l'évangile. La purification des cultures par l'évangile. Donc ici, ce n'est pas l'évangile, mais c'est quand même la parole de Dieu. Et donc, c'est une belle voie pour finir cette réflexion sur la culture. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar s'assembleront chez toi, avec les béliers de Nébaïoth pour ton service. Sur mon autel, ils seront présentés en sacrifice agréable, et je donnerai son éclat à la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? Oui, les îles mettent leur espoir en moi. Les vaisseaux de Tarsis viennent en tête pour ramener tes fils du lointain, portant leur argent et leur or en hommage au nom du Seigneur ton Dieu, en hommage au Saint d'Israël, car il t'a donné sa splendeur. Des étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois seront à ton service. Oui, dans ma colère, je t'avais frappé, mais dans ma bienveillance, je t'ai fait miséricorde. On tiendra toujours tes portes ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni de jour, ni de nuit, afin qu'on fasse entrer chez toi les richesses des nations, et le roi avec leur suite. Car nation ou royaume, qui ne te servirait pas, périra. Ces nations-là seront entièrement dévastées. La gloire du Liban viendra chez toi, cyprès, ormes et mélèzes ensemble, pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire. Et ce lieu où je pose mes pieds, je le glorifierai. Les fils de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville du Seigneur, sillon du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé, haï, sans personne qui passe, je ferai de toi la fierté des siècles, une joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu te gorgeras de la richesse des rois, et tu sauras que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, force de Jacob. Et je vais jusqu'en bas. Le jour, tu n'auras plus le soleil comme lumière, et la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Le Seigneur sera pour toi lumière éternelle. Ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune pour toi ne disparaîtra plus. Car le Seigneur sera pour toi lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront accomplis. Ton peuple ne comptera que des justes, ils posséderont le pays pour toujours, eux, ce rejeton que j'ai planté, ouvrage de mes mains qui manifeste ma splendeur. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, le Seigneur, je hâterai cela au temps voulu.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
Amen.